Alors ce matin, oups, attendez une seconde. Ce matin, je vais vous demander d'aller dans la parole de Dieu. Et ce matin, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 21. Matthieu, chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais ramassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Prions Dieu. Père éternel, que veux-tu nous enseigner ce matin? Je te prie, Père, que tu puisses disposer nos cœurs ce matin à entendre ce que tu as mis sur le mien. Et Père, puisses-tu me cacher derrière toi, Seigneur, afin que ta gloire resplendisse et non la mienne. Que ton nom soit sanctifié à travers ta parole. Que ton nom soit glorifié. En Jésus, on prie. Amen. Le titre de mon message ce matin est « Je veux prêcher Christ ». Mais j'ai ajouté quelques mots en disant « Je veux prêcher Christ ». En m'adressant à vos cœurs. Cette semaine, plusieurs semaines passées, on m'a demandé de prêcher pour faire une suite à la rencontre annuelle qui a eu mercredi soir passé. Et la difficulté était d'amener pour ceux qui n'étaient pas là aussi, puis pour ceux qui sont ici ce matin, qui étaient là, tout de même un message qui va parler à vos cœurs. Le 1er septembre 2006, je débutais mon ministère comme pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury. Ça va faire bientôt 12 ans que moi et Joanne partageons vos peines et vos joies, et que nous avons appris à mieux vous connaître. Sans votre support et votre amour pour nous deux, il aurait été impossible, je crois, de vivre tous ces moments, ces bons moments, quoi qu'ils furent, avec vous. Je dois aussi dire aussi qu'il en aurait été de même si ma douce et tendre épouse ne m'aurait soutenu tout au long de mon ministère à Hawkesbury. Merci, Joanne. Donc, l'exhortation ce matin n'est pas d'ajouter à ce que mes frères vous ont présenté, hein, les dirigeants du conseil de l'Église, qui ont fait une merveilleuse présentation mercredi soir dernier. Je crois que c'est complet et que, par la grâce de Dieu, nous allons travailler à ce que l'Église avance de jour en jour, de plus en plus, vers le royaume des cieux. Et ce matin, je vais vous parler un peu de mes responsabilités en tant que pasteur qui est celle de veiller sur vos âmes et sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et mon but, dès le début, parce que j'ai eu d'excellents formateurs, a été de vous prêcher Christ en m'adressant à vos cœurs. Des fois, c'est peut-être moins évident, parce qu'on veut mettre un peu plus de doctrine, on veut mettre un peu plus d'histoire, mais le but ultime, c'est de toucher vos cœurs. Ce qui est important pour moi, c'est de prêcher à vos cœurs. Et ceci est à considérer dans la prédication et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux parler d'un point important qui est celui de l'importance de m'adresser à votre cœur. Vous savez, mon engagement dès le début devant Dieu et devant vous tous, même si au départ, lorsqu'on est appelé à être pasteur, on n'a pas vu encore l'ensemble de l'œuvre. Mais tout de même, dès le début devant vous, a été de prêcher Christ. C'est-à-dire que vous puissiez voir Christ à travers la prédication. Et malgré mes débuts, mes débuts, un jeune homme de 53 ans, non, 56 ans. Je me rajeunirai pas. Qui avait peut-être moins d'expérience dans la prédication, dans le pastorat surtout. Je prêchais, j'étais un prêcheur itinérant, qu'on appelle, qui va de place en place. Mais je n'étais pas devant l'ampleur de l'œuvre. Donc, mon but, c'était, a toujours été de vous prêcher Christ, de vous prêcher son amour et de vous prêcher le salut par grâce en Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre que la prédication biblique soit non seulement biblique, mais aussi qu'elle soit adaptée à la culture actuelle. C'est-à-dire qu'on vit au 21e siècle aujourd'hui. La parole ne change pas, là. Je ne suis pas en train de dire que la parole change, mais le contexte est différent. Ces deux caractéristiques-là, la prédication biblique et prêcher pour adapter selon la culture, sont loin, par contre, d'être suffisantes. Parce que les vérités prêchées ne seront pas nécessairement suivies par l'obéissance. Il n'y a personne qui peut me dire ici ce matin, à tout ce que la Bible dit, je suis obéissant à cette parole. C'est pas vrai. Car si en plus de les comprendre, si vous comprenez ce que je dis, mais que vous ressentiez aucune crédibilité, qu'est-ce qui va en sortir? La parole de Dieu, elle est crédible. Mais est-ce que celui qui prêche la parole de Dieu la rend crédible? Puis c'est pourquoi, même si la prédication est saine, fidèle aux Saintes Écritures, elle doit aussi frapper votre imagination et éveiller votre intérêt. Elle doit vous saisir et elle doit toucher votre cœur. C'est toujours un grand défi qui demande beaucoup de réflexion, de lecture à celui qui enseigne sur ce que la Bible dit. Et je pense que ceux qui enseignent pourraient dire la même chose. C'est pas juste de prendre quelque chose puis de l'écrire puis dire bang bang, je m'en vais. Mais il y a de la lecture, il y a de la réflexion. J'ai beau avancer des affirmations, vous mettre devant des défis et en plus m'imaginer être un bon petit soldat pour la vérité. Si ce que je prêche demeure sec et plat, personne ne va se repentir. Et personne ne va adhérer aux doctrines bibliques que je vous prêche chaque dimanche, aussi correctes soient-elles théologiquement. Ce que je prêche doit être tel que vous en ayez le cœur touché. Tout comme le premier sermon de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, et si vous voulez tourner dans Acte 2, verset 37, ou prendre la note pour aller voir plus tard, mais dans Acte 2, 37, on peut lire, « Après avoir entendu ce discours, il y a beaucoup de monde à Jérusalem. » Et là, Pierre fait ce discours après avoir reçu l'Esprit Saint. Et ces gens-là qui ont écouté le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pas l'esprit, là, le cœur. Mais je me dois de vous dire ceci. Et j'aimerais que vous m'écoutiez. Je ne suis pas responsable de la disposition de votre cœur le dimanche matin. Si vous arrivez à l'église le dimanche matin avec un cœur disposé à juger, à critiquer, à vouloir rien comprendre, à ne pas être intéressé, ou bien à vouloir entendre seulement ce qu'on veut entendre, je ne suis pas responsable de cela. Vous savez, un jour, on aura tous à rendre compte devant Dieu, moi y compris. Tout ce que j'enseigne sera un jour jugé par notre grand Dieu. Donc, celui qui prend le temps de lire la Bible de nos jours, il faut qu'il ait une bonne compréhension du mot « cœur ». Et c'est souvent le contraire. De nos jours, on suggère que le mot « cœur » désigne seulement les émotions. Excusez-moi. Mais la Bible parle souvent de penser ou d'agir selon son cœur. Et cette notion ne cadre pas du tout avec la nôtre au 21e siècle. Par exemple, les Grecs de l'Antiquité, n'avaient pas une compréhension biblique du mot « cœur ». Pour eux, ce qui comptait le plus, c'était la prépondérance de l'esprit sur le corps. L'esprit est plus important que le corps. La victoire de la raison et de la volonté sur les passions charnelles. Et aujourd'hui, on continue à opposer raison et esprit. On a fait de nos émotions, notre moi véritable. Et nous les avons laissés détrôner notre raison. On ne se préoccupe pas des autres, de son prochain. Et celui qui compte, c'est mon moi. Mon petit moi à moi tout seul. Par contre, la conception biblique du cœur humain n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Pour la Bible, le cœur, c'est le siège de l'esprit, de la volonté et des émotions. Genèse 6, 5 nous dit ceci. Si vous voulez tourner, Genèse chapitre 6. Verset 5. On peut lire, hein, Genèse 6, verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Écoutez bien ça. et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Selon Gordon Wenham, qui est un commentateur biblique, le mot « cœur » en hébreu, qui est « leb », L-E-B, est le centre de la personnalité humaine, la source de la volonté et de la pensée. Il n'est pas seulement l'origine de nos émotions. Et c'est vrai que notre cœur génère des émotions. Je ne veux pas enlever ça. Exemple. Je vais juste vous donner les références, peut-être avec quelques mots. Sinon, on dépasserait notre temps, mais Deutéronome 28, 47 nous parle de la joie. Hein? Servir l'Éternel ton Dieu avec la joie de et de bon cœur. Ça exprime aussi la tristesse dans 1 Samuel 1,8. Pourquoi, hein? Elkanah demande à sa femme, Anne, pourquoi ton cœur est-il attristé? La colère dans 2 Rois 6,11, hein? Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et lorsqu'on va voir la définition de agité, ça veut dire qu'il est en colère. Ensuite, Jean 14,1 qui nous parle de l'angoisse. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Le proverbe 23,7 parle de l'amour en ce sens, hein, « Mais son cœur n'est point avec toi. Hein, si ton cœur n'est pas avec celui de ton épouse ou vice-versa, tu ne l'aimes pas. » Daniel 2,30 parle de la volonté et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et enfin, Acte 8,32 qui parle encore de la volonté, passage de l'Écriture que cet eunuque-là lisait. Hein? Et là, il demande ensuite d'être baptisé. Le cœur peut aussi élaborer des plans et prendre des décisions. Et on a des exemples dans Proverbe 16.1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il ne faut pas oublier ça. Le cœur est la base de toutes les paroles que nous prononçons. Et je vais vous citer Matthieu 12, verset 34, qui dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et aussi Romains 19, qui dit « Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. » Et là, il dit « Si tu confesses de ta bouche avant le Seigneur Jésus parler. » Au fond, c'est le cœur qui fait l'objet de la confiance. Et dernier passage pour le moment, dans Proverbe 3,15, « La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. » Et la définition dans l'hébreu du mot « désirer », mais ça parle aussi de confiance. Du point de vue biblique, je me suis trompé, c'est pas le dernier verset, il y en a un autre. Du point de vue biblique, il y en a plusieurs autres. Du point de vue biblique, les aspirations du cœur vont dépasser de beaucoup le domaine, le seul domaine, je dirais, émotionnel. Proverbe 23, 26. « Mon fils, fais-moi confiance et prends plaisir à suivre mon exemple. » C'est dans le français courant. Pour la Bible, il n'existe pas d'opposition entre tête et cœur. Selon Genèse 6, 5, qu'on a lu tantôt, les pensées, les actions, les sentiments du cœur sont le produit de ses penchants. Matthieu 6, 21 va nous dire, « Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Où est ton trésor? Ta nouvelle voiture que tu viens d'acheter, ta nouvelle maison, ton compte en banque. Selon Donald Hagner, un autre commentateur, le cœur est donc le centre d'intérêt et d'engagement de l'homme. Don Carson, que plusieurs connaissent ici, dit ceci dans son commentaire sur Matthieu, « Ce que nous estimons et aimons au plus haut point va d'une façon subtile, mais certaine, contrôler complètement nos vies et nos valeurs. Ce qu'on estime et qu'on aime au plus haut point va d'une façon subtile, mais certaine, contrôler complètement nos vies, nos valeurs. On va regarder quelques passages encore. Regardez dans 1 Samuel 16, verset 7. J'aimerais qu'on puisse tourner dans ces passages-là parce que qu'on puisse les lire. 1 Samuel 16, verset 7. Hein? On peut lire. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Hein? » Samuel dit à David, « Garde... » Regarde pas ce qu'il y a de l'air. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, c'est vrai, mais l'Éternel regarde au cœur. Allez dans 1 Corinthiens 4, 5. On va aller faire un petit tour dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 4, 5, après ça, ça va être Jérémie 17, 10. Mais 1 Corinthiens 4, 5 dit ceci, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et enfin, Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Dans la section des prophètes, qui dit ceci, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu ne regarde pas à l'apparence des choses, mais Dieu s'intéresse par-dessus tout à ton cœur. Selon les prophètes de l'Ancien Testament, observer la loi et même louer les lèvres ne veut rien dire si on ne lui a pas donné son cœur. Isaïe 29, 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Même si ça a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, c'est encore vrai aujourd'hui. Jérémie 12, 2, qui dit, « Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. » C'est pourquoi ces prophètes-là, ces hommes de Dieu-là, affirment et ils insistent que le but de la vie, c'est pas de se conformer là, d'une façon superficiel, hein, à la loi, mais c'est d'avoir un cœur transformé. Ce que je vous partage ce matin, c'est que je ne veux pas faire de vous des génies de la Bible, des connaissants. Oh, je vais être content si vous êtes connaissant dans la parole de Dieu, mais surtout que vous ayez des cœurs transformés. Que nous ayons la loi gravée dans le cœur par le moyen de la nouvelle naissance. Pas du tout pareil comme dans Galates. Cette loi-là, cette parole-là, qu'on puisse l'avoir gravée dans le cœur à travers la naissance, par le moyen, c'est-à-dire de la naissance spirituelle. Jérémie 31-33 dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça aujourd'hui. Ce que mon cœur désire profondément va être jugé raisonnable, doit être jugé raisonnable par mon esprit, précieux par mes émotions et réalisable par ma volonté. Donc, il est vital que ce que je prêche le dimanche matin vise à persuader vos cœurs de placer votre confiance et votre amour en autre chose qu'en Dieu lui-même. Rien d'autre. Pas en moi, surtout pas en moi, mais en Dieu lui-même. Ce qui définit ce que nous sommes, c'est la façon dont on hiérarchise nos aspirations, ce qu'on place en priorité. Et habituellement, Il y en a-tu qui connaissent l'échelle de Maslow? Non, en tout cas, moi j'ai appris ça dans mes premiers cours de SEMBEC. Ce qu'on aime le plus, ce qu'on adore le plus, excusez-moi, là, par-dessus tout, évidemment, il faut que ce soit Dieu. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, par contre. Mais ça, c'est la façon hiérarchique de la manière qu'on pense. Et qu'on doit penser aussi. Ou qu'est-ce qui se passe en nous, je devrais dire? On adore par-dessus tout. C'est quoi qui fait par contre le sujet de ton adoration? On aime ce qui nous plaît. On aime ce qui nous accommode. Et enfin, il y a ce qu'on déteste. Alors, il y a ce qu'on adore. Il y a ce qui nous plaît, il y a ce qui nous accommode, il y a ce qu'on déteste. Et cet ordre nous représente beaucoup plus fidèlement que nos positions intellectuelles. Hein? Nos aspirations en disent beaucoup plus long que nos discours sur ce qu'on croit vraiment. Et c'est pourquoi changer n'est pas simplement changer sa façon de penser, mais c'est d'abord changer ses aspirations. C'est quoi que je place au top de la ligne? C'est qui? Donc, je ne peux pas seulement me contenter d'une prédication des vérités bibliques de la Bible, d'une façon claire, d'une façon accessible à mon intellect, mais je dois aussi la rendre crédible et désirable. Parce que votre cœur ne pourrait pas être transformé que si, au-delà d'une prédication acceptable pour la raison,
je présente à votre imagination des vérités nouvelles, inattendues, qui s'adressent à votre cœur. Mais il faut que ce soit biblique. Et comme je le disais tantôt, il est très important que votre cœur soit bien disposé. Moi, je dis tout le temps que le dimanche matin, ça se prépare le samedi. C'est sûr que des fois, il y a des noces, des anniversaires, ces choses-là, je comprends. Dans ce temps-là, il faut prier plus fort. Mais on doit être disposé le dimanche matin. On ne s'en vient pas au restaurant pour manger un lunch. On ne s'en vient pas dans un magasin à rayon pour acheter quelque chose. On vient ici pour adorer Dieu. Pas pour adorer comment c'est beau, la musique ou donc les instruments. Non, non, ça c'est très, très, très minime parce qu'il y en a qui louent le Seigneur dans des bois avec des morceaux de bois. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait un cœur disposé en tout temps à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Que ce soit le dimanche matin, que ce soit le mercredi soir, que ce soit aux études bibliques ou à toute autre occasion que la vérité de la Bible vous soit enseignée. Moi, puis les anciens de l'Église et tous ceux qui enseignent à l'Église, tous ceux qui viennent prêcher, on a ça à cœur. L'amour de Dieu, la patience de Dieu, la colère de Dieu, il faut en parler. Dieu a eu le péché. Dieu est trois fois saint, saint. Saint, saint est le Seigneur. Je ne peux pas le servir avec un cœur tout croche. Je vais conclure ce matin, puis je suis content que je pensais que je n'étais pas dépassé mon temps. Mais je vais conclure avec ceci. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la prédication. On explique l'exégèse, on explique les doctrines, comment les présenter. La prédication par exposition. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent que la prédication parle au cœur des gens. Et je vais juste vous en citer trois ici. Là. Ceux qui voudront prendre note après, venir me... Viens de me voir. Là. Le premier, c'est Sinclair Ferguson. Je pense qu'on connaît plusieurs, ceux qui connaissent John MacArthur. Sinclair Ferguson a écrit un livre qui s'appelle Preaching to the Heart. Samuel T. Logan, The Preacher and Preaching. Et Josh Moody et Robin Weekes, Preaching to the Affections. Pour moi, viser les cœurs dans la prédication, parce que c'est mon travail principal, parce que c'est ce que j'ai à cœur, parce que c'est ce à quoi je vais devoir en rendre compte à Dieu, doit être non seulement biblique, mais aussi un excellent moyen de répondre à une génération, je ne parle pas de ceux qui sont sauvés ici ce matin, mais à une génération déchristianisée et dans laquelle les acquis religieux sont appelés de plus en plus à décliner. Je veux prêcher au cœur de ces gens-là. Je veux prêcher à votre cœur aussi, mais je veux prêcher aussi au cœur de ces gens-là. Et ils ne vont rien comprendre à ce qui est écrit dans les Écritures s'ils ne sont pas sauvés. Les gens qui vont à l'église le font, je dis certaines, j'aime pas tout, le font non parce que c'est un devoir ou un signe d'appartenance à une communauté ou à une classe sociale, mais uniquement parce que leur cœur leur a décidé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je rends grâce, je rends gloire à Dieu pour les 12 années, presque 12 années, que j'ai passées parmi vous. Je prie que mon ministère et tous les ministères de l'Église puissent continuer, que je puisse pouvoir vous prêcher pour longtemps, si vous le permettez, évidemment, et sans oublier, si Dieu le permet. J'aimerais aussi remercier tous les membres du conseil pour leur soutien. Pour l'équipe qu'on forme, même si parfois on a des idées différentes, combien on peut être béni de voir comment Dieu prend ces idées-là et les unit pour que l'unité soit faite. Je les remercie pour leur excellente présentation qu'ils ont fait mercredi soir dernier. C'est un rêve qui s'est réalisé pour moi de voir une rencontre générale de l'Église se faire en dehors du dimanche. On a un défi extraordinaire de venir un mercredi soir. Il y a des gens qui sont venus de partout. C'était une bénédiction, et je prie que ce n'est pas juste une balloune. Vous savez ce que je veux dire par là? Mais que ça va continuer. Et jusqu'à la prochaine rencontre annuelle, l'an prochain, bien, on va avoir bâti des choses. Et j'espère de tout cœur que vous avez été ce matin encouragés, puis mercredi, là, j'inclus les deux, encouragés de constater que votre Église est entre de bonnes mains. Et puis qu'elle est une Église en marche vers le royaume des cieux. Prions Dieu. Merci, Papa. Tu connaissais mon cœur ce matin. Il vivait un peu d'angoisse, il vivait un peu de crainte, mais aussi d'un désir complet de vouloir partager avec mes frères et sœurs ce que tu as mis sur mon cœur. Merci que dernièrement, ma santé s'améliore. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est les prières de l'Église ici, l'Église de Buckingham, de notre association, des gens qui prient pour moi. Merci pour vos prières, frères et sœurs. Et Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton salut immérité de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis dès la fondation du monde, sans qu'on ait pu rien faire pour attirer ton attention. Un choix, une élection claire. Et Seigneur, qu'on puisse aller, comme on l'a dit mercredi, dans le plan d'action qu'on veut élaborer cette année, aller faire des disciples. Aller faire des disciples. Qu'on puisse trouver le moyen le plus biblique possible, selon nos forces, pour que l'Évangile soit répandu à Hawkesbury et dans nos régions. Qu'on puisse, Seigneur, continuer avec la belle jeunesse que tu nous as confier, qu'on en soit responsable. Et je te prie pour mon frère Mathieu qui, et son épouse qui vont s'occuper d'eux, Dieu voulant. Merci à tous. Merci à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.
Amener nos témoignages, nos partages de ce qui se passe dans l'Église. Puis chacun de nous, on s'est fait applaudir pour nos ministères, puis qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Je pense que ça vaudrait une main d'applaudissement pour Denis et Joanne qui nous ont servi pendant deux ans. Merci à vous. Alors, Michel, si tu veux bien t'avancer pour les offrandes, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous visitent, comme d'habitude, sentez-vous bien à l'aise de laisser passer le panier si vous avez des offrandes que vous faites à d'autres églises, soyez fidèles dans vos...